Alors Jésus est mort et il est ressuscité. La semaine passée, David Rosset nous a parlé en fait des premières témoins de la résurrection. Ces premières témoins, elles étaient parties le matin très tôt à l'aube. C'était Marie de Magdala, Jeanne et puis d'autres femmes. Et elles étaient venues avec des baumes pour le corps de Jésus. Mais quand elles sont arrivées, il n'y avait pas de corps. Et là, elles n'ont rien compris. Mais il y avait deux anges qui lui ont dit, mais pourquoi? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Alors, elles vont l'annoncer aux disciples. Elles retournent. Mais les disciples ne croient pas les paroles des femmes. Ce même jour, en fin d'après-midi, il y a deux disciples qui partent sur le chemin d'Emmaüs. Ils sont tout tristes, découragés. Ces deux hommes ne comprennent pas vraiment ce qui s'est passé. Ces disciples, ils ne font pas partie des 11 disciples. En fait, c'est deux disciples inconnus. On sait que l'un s'appelle Cléopas et l'autre, on ne sait pas son nom. Il y a un théologien, Charles Perrault, qui a suggéré que finalement, ce disciple qui n'a pas de nom, ça pourrait être chacun des croyants, celui avec lequel on peut s'identifier, celui qui porte notre nom. Ces deux disciples, donc ils partent comme ça, en direction d'Emmaüs, ils discutent. Et puis même cette localité d'Emmaüs, en fait, elle n'a jamais vraiment été bien localisée. Et il y a eu plusieurs hypothèses, mais finalement, ce n'est pas dépourvu de signification. Car le chemin d'Emmaüs pourrait aussi symboliser le chemin de vie de chaque croyant, de chaque homme. Ces deux disciples préoccupés ne comprennent toujours pas, mais pourquoi Jésus est mort? Et où est passé son corps? Jésus, oui, il a été crucifié, on l'a vu. Alors, quelle espérance reste-t-il? Parce qu'ils avaient vraiment placé leur espoir en lui, ils espéraient qu'enfin, il les libère de la domination romaine. Mais non. Et alors qu'ils marchent et qu'ils sont découragés, abattus, il y a un homme qui les rejoint. Un homme qui leur demande, mais de quoi parlez-vous? Mais là, les disciples sont quand même surpris et ils lui répondent, ils lui expliquent. Et cet homme les écoute. Ses disciples, ils vont même justement ouvrir leur cœur. Il y aurait un partage. Cet homme va peut-être, va même aller jusqu'à les reprendre, puis il va les enseigner. Pourquoi? Il leur explique pourquoi Jésus devait souffrir. Il reprend même avec eux les textes de la Torah. Il leur explique, depuis Moïse, depuis les prophètes, tous les textes qui annonçaient ce Jésus souffrant, ce Messie. Arrivés à destination, les compagnons lui disent, mais reste avec nous, il se fait tard. Et là, ils continuent ensemble. Ils acceptent, ils se retrouvent autour d'une table. Cet homme prend le pain, il le rompt, il le partage et il le leur donne. Et à ce moment-là, les disciples, ils comprennent, mais oui, mais c'était lui. Et tout change. Et au même moment, cet homme disparaît. Les disciples, ils sont complètement bouleversés. Ils repassent en eux tout le film. Ils se disent, mais oui, il nous a parlé de ça. Il nous a dit, il nous a expliqué. Il a partagé le pain. Ils sont tellement excités. Ils se disent, mais maintenant, on ne peut pas garder ça pour nous. Il faut qu'on retourne à Jérusalem. Je vous propose d'écouter le texte biblique de Luc 24, qui est lu par Marie Ray. Merci, Marie.
Or, ce même jour, deux d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et débattaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quels sont les propos que vous échangez en marchant ? Ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul qui, tout en séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci ?»«
Quoi ?» leur dit-il.
Ils lui répondirent « Ce qui concerne Jésus le Nazaréen, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié ?» Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël. Mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces événements se sont produits. Oh, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont stupéfiées. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient eu une vision d'ange qui le disait vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit « Que vous êtes stupides, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui dans toutes les Écritures le concernait. Lorsqu'ils approchèrent du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour demeurer avec eux. Une fois installé à table avec eux, il prit le pain et prononça la bénédiction. Puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux.
Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ? Ils se levèrent à ce moment même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et ceux qui étaient avec eux, qui leur dirent « Mais le Seigneur s'est réellement réveillé et il est apparu à Simon !» Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils s'étaient fait reconnaître d'eux en rompant le pain.
Et si on lit la suite, le verset suivant, on découvre aussi un moment extraordinaire à nouveau. Il parlait encore avec les disciples, ces deux disciples d'Emmaüs, quand Jésus lui-même se présenta devant eux. Au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Alors, qu'est-ce que nous dit ce texte des disciples d'Emmaüs ? Je propose qu'on s'arrête un peu sur sa structure, parce que finalement ce texte, il est tellement bien structuré. Il commence par 2 heures de marche en direction d'Emmaüs. Et puis il se finit par 2 heures de marche d'en retour vers Jérusalem. Ça forme comme une boucle, comme un tout. Et c'est déjà tout un symbole. S'éloigner avec plein de questions, de doutes, de désespoir, se laisser rejoindre par Jésus, se laisser reprendre, enseigner, partager le pain, et là, Jésus disparaît. Et les disciples, ils sont mais complètement bouleversés. Ils repartent transformés. Le narrateur Luc nous prend à part et nous place en tant que lecteur dans une position haute. Car dès le début du récit, en fait, il nous dit que cet homme qui accompagne ses disciples, c'est Jésus. Il nous donne une info que les disciples n'ont pas eue. Alors on peut vite comprendre les enjeux et toute la trame du récit qui va se jouer sur cet écart entre l'information donnée au lecteur et puis celle qui n'a pas été donnée, qui s'est comme a été refusée aux disciples. On peut se poser la question, mais pourquoi finalement les disciples ne reconnaissent pas Jésus ? Ils le connaissent. Alors est-ce que c'est parce qu'ils sont tellement pris par leur tristesse, leur découragement tellement centré sur eux, ou est-ce que c'est parce que Dieu a comme voilé leur entendement? Finalement, ça pourrait être les deux. Ça pourrait être une impuissance humaine, mais ça pourrait être aussi Dieu qui a agi et qui a comme empêché qu'ils le reconnaissent. Jésus, il se présente comme un inconnu. Cela nous rappelle que le ressuscité, c'est vraiment le tout autre. Et puis au cœur de ce récit, il y a le dialogue entre les disciples et Jésus. Et lors du discours de Jésus, la situation s'inverse pour nous, en fait, lecteurs. Tout d'un coup, on passe en position basse. On est comme un peu mis à l'écart. Jésus, il explique aux deux disciples tout ce qui le concerne dans la Torah, depuis Moïse et tous les écrits des prophètes. Mais nous ne savons pas. L'enseignement, il est réservé aux disciples. Et nous l'ignorons. Nous, on aimerait bien, j'imagine que vous aussi, vous auriez bien aimé savoir qu'est-ce que Jésus a dit. S'il y avait eu un petit micro là pour enregistrer, ça aurait été magnifique. Et puis ça crée une certaine frustration. Je ne sais pas si vous l'avez senti en entendant ce récit. Que quelque part, on aimerait bien savoir ce qui s'est passé. Mais cette rétention d'informations, finalement, elle va durer jusqu'au deuxième écrit de Luc. Luc, il a écrit l'évangile de Luc, mais il a aussi écrit les actes des apôtres. Et si vous voulez connaître la suite, si vous voulez connaître justement toutes ces explications, alors je vous encourage, et je crois que Luc nous encourage à relire aussi les actes des apôtres. D'ailleurs, dans Luc 2, dans Luc 3, il y a des citations de l'Ancien Testament, par exemple de Joël, pour dire que l'Esprit Saint est déversé et que, oui, les gens prophétisent. C'est quelque chose qui était déjà annoncé. Dans Luc 7 aussi, c'est Étienne qui reprend toute l'histoire d'Israël et puis qui explique, justement, avec les textes de l'Ancien Testament, ce Jésus qui devait venir. Et en acte 7, et maintenant en acte 13, c'est même Paul, lors de son premier voyage missionnaire et qu'il est en Antioche de Pisidie, lui aussi, il reprend l'explication du peuple d'Israël jusqu'à l'arrivée du Messie. En fait, Luc, le rédacteur, nous laisse en quelque sorte sur notre faim. C'est comme s'il nous encourage à lire les actes, mais à relire l'Ancien Testament à la lumière du ministère de Jésus. Au centre du dialogue entre les deux disciples et Jésus, il y a le témoignage des femmes et leur vision des anges qui déclarent que Jésus est vivant. Et voilà vraiment le cœur du récit. On se trouve là à la pointe. Et c'est comme la clé d'interprétation. Parce que finalement, ce que ces disciples y portent en eux-mêmes, c'est cette question, mais qu'est-ce qui est devenu Jésus ? Et là, c'est bizarre parce que finalement, eux-mêmes, ils le disent à cet inconnu. Mais oui, les femmes ont dit qu'elles ont entendu les anges dire qu'il est vivant. Mais c'est comme si ça ne percute pas. C'est comme s'ils l'entendent, mais ils ne peuvent pas encore le recevoir dans leur cœur. Leur foi, elle semble tellement faible que ça ne rentre pas. Puis à la fin du récit, Luc place le lecteur dans une position d'égalité avec les disciples d'Emmaüs. Tout d'un coup, ensemble, nous lecteurs et les deux disciples, on arrive à Emmaüs. On est aussi invité à la table. Encore aujourd'hui, on est invité à la table du roi. On peut être là avec Jésus. Il prend le pain, il prie, il le partage. Il le rompt et il le partage. Et c'est aussi pour nous qu'il le fait. Ensemble, finalement, on est devant le mystère du Christ insaisissable. Parce qu'au moment où ça se produit, au moment où il partage le pain, pouf, il disparaît. Présence invisible du ressuscité. Et puis quand justement les disciples le reconnaissent enfin, ils le reconnaissent, Jésus disparaît. C'est comme, je me suis dit, mais tellement troublant. Il passe comme ça presque 2 heures avec lui et au moment le plus important, pouf. C'est comme si Jésus, il arrivait à la fin de sa mission. Il leur avait parlé à leur cœur. Il s'est fait connaître. Alors, il peut disparaître. Sa disparition soudaine ne faisait que confirmer aux disciples que oui, c'était bien lui. Maintenant, ils n'ont plus aucun doute. C'est vraiment Jésus. Qui d'autre que lui peut apparaître et disparaître? Ça me rappelle un film. Tu me vois, tu me vois plus. Tu me vois, tu me vois plus. C'est quand même assez étonnant. Alors d'un côté, ça devait être tellement frustrant pour les disciples de ne pas pouvoir poser des questions à Jésus, de même pas pouvoir lui dire « Mais oh, merci d'avoir été avec nous !» Et puis de l'autre, mais quelle grâce, quel privilège d'avoir pu passer comme ça un tête-à-tête avec Jésus, d'avoir pu dialoguer, d'avoir pu être enseigné. Les disciples, ils sont tellement, tellement bouleversés. Ils sont tellement remplis de joie qu'ils ne tiennent plus sur eux-mêmes. Ils font comme un retour sur eux-mêmes, mais même un retour à Jérusalem. Et là, Ils repartent vers les disciples, les onze. La rencontre avec le ressuscité donne des ailes pour témoigner. Alors, à peine ont-ils eu le temps de raconter ce qu'ils ont vécu avec le vivant, que tout d'un coup, à nouveau, il apparaît. C'est la troisième fois qu'il apparaît dans cette journée. Mais entre le moment de sa résurrection du dimanche de Pâques jusqu'à son ascension pendant ces 50 jours que nous vivons encore, on se rappelle aujourd'hui, il a apparu à plus de 500 personnes. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, 1 à 8. Alors que nous apprend ce récit ? Au travers de cette rencontre sur le chemin d'Emmaüs, nous découvrons le ressuscité qui se fait compagnon de route. Un compagnon de route discret auprès de deux disciples inconnus. Benoît XVI a commenté une fois ce texte, il a dit « Mais sur nos chemins, Jésus ressuscité se fait compagnon de voyage pour rallumer dans nos cœurs la chaleur de la foi et de l'espérance et rompre le pain de la vie éternelle. » Alors oui, Jésus est présent auprès de ses deux disciples qui s'éloignent de Jérusalem. Il s'intéresse à eux, il leur pose une question, il les écoute. Et à un moment, il les reprend. Il reprend leur manque d'intelligence, leur lenteur à croire ce qu'ont dit les prophètes. Puis il les enseigne, mais sans leur avouer que c'est lui. Il n'arrête pas de leur parler du Messie pendant tout le temps, mais sans leur dire que c'est lui. C'est quand même, je me suis dit, mais le plus beau quiproquo de toute l'histoire des témoins de la résurrection. Et quand on y pense, cette remarque aussi de Cléopas, du disciple, qui dit, mais tout au début, mais es-tu le seul à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ? En posant cette question, il dit, mais est-ce que toi, t'es un peu un ignorant ? Sous-entendu, nous, on est ceux qui savons ce qui s'est passé. Et je me suis dit, mais quand même, là, le narrateur, Luc, c'est comme s'il met le point encore plus sur cette différence, ce décalage qu'il y a dans la perception des disciples. Comment ils voient cet homme ? Parce que ce compagnon qui fait route avec eux, il arrive tellement avec humilité, avec douceur. Et c'est bien justement le seul qui sache exactement ce qui s'est passé. Le seul qui sache ce qui s'est passé sur la croix, tout ce qu'il a enduré, tout ce qu'il a souffert, puisque c'était lui qui était là. C'est lui qui est ressuscité. Alors, ceux qui pensent savoir ne sont pas toujours ceux qui savent vraiment. Comment Jésus s'approche d'eux ? Que pouvons-nous apprendre de Jésus dans sa manière d'accompagner ses deux disciples ? J'avoue que personnellement, en tant que pasteur et psychothérapeute, j'ai trouvé mais tellement passionnant de lire ce récit, de le méditer, de le creuser, de voir comment Jésus les accompagne. Jésus, finalement, on pourrait dire, il prend une position basse dans cette relation. Il arrive, il ne s'impose pas, mais il pose une question ouverte. Il vient avec beaucoup d'humilité, sans se faire connaître, sans se vanter. Il prend aussi le temps pour les écouter. Et pendant toute cette première partie, il a une attitude non jugeante et non directive. Puis, il ose les reprendre sur des points précis. Il dit, vous êtes sans intelligence pour ne pas comprendre, pour ne pas faire les liens, et vous êtes lent à croire, ce qui n'est pas facile à entendre. On peut se demander si des fois aussi nous sommes lents à entendre et à croire. Mais Jésus va plus loin, il les enseigne, il leur parle. Il veut vraiment faire que leur foi grandisse. Et même, enfin arrivé à Emmaüs, il fait comme mine de repartir. Et là, il laisse aux disciples la possibilité de reprendre l'initiative pour la suite ou pas de l'accompagnement. Ce sont les disciples qui demandent « mais reste avec nous ». Jésus accepte leur invitation. Il se rend disponible pour aller jusqu'à partager un repas avec eux. Et là, par divers gestes, il se fait connaître. Puis, il disparaît, comme il est apparu. Car je crois que Jésus a compris que maintenant c'est bon. Ils ont grandi dans leur confiance et dans leur foi. Il peut partir. Il a été présent à leur côté. Il est vraiment vivant. Mais quelle belle leçon, je me suis dit, d'humilité, de sagesse et d'amour de la part de Jésus pour accompagner comme ça ses disciples qui étaient comme perdus, découragés. Il était là avec eux. Et qu'est-ce que ce récit nous dit? Comment il nous rejoint? Je crois que Jésus aussi, il est là à nos côtés quand nous sommes perdus sur un chemin sans lendemain. Et puis, est-ce qu'aussi dans nos vies, nous prenons parfois des chemins qui nous éloignent, des chemins où nous nous sentons tristes, découragés? Ce que nous dit ce texte et ces pèlerins d'Emmaüs, c'est finalement que nous pouvons tous nous retrouver un jour sur ce chemin et que Jésus, lui, désire nous rejoindre. C'est quelque chose, je me suis dit, d'extraordinaire. Lui viendra à notre rencontre. Quel puissant message d'espérance. C'est lui qui fait ce pas vers nous. Quelle grâce, Jésus s'intéresse à nous. Imaginez, il est prêt à passer 2 heures avec nous à nous entendre, à entendre nos doutes, nos questions. Et il prendra le temps de nous écouter, peut-être de nous reprendre, aussi de nous enseigner. Peut-être qu'il nous fera voir aussi les épreuves que nous traversons autrement, avec son regard. Et peut-être, comme les disciples, on devra renoncer à certains projets pour accueillir les siens, parce qu'ils ont dû renoncer à espérer en Dieu, en Jésus, pour changer la domination romaine. Et si nous sommes prêts à l'inviter, à lui dire « Mais reste avec nous, Jésus !» Il se peut certainement que Jésus va venir aussi à notre rencontre pour partager ce pain, pour manger avec nous, pour nous faire vivre de sa présence. Nous sommes aussi parfois comme ses disciples, un peu perdus sur le chemin de la vie. On doute, parfois on peut traverser des crises dans notre foi, traverser des chemins de désert. On ne sait pas toujours comment continuer, quel choix prendre, quelle direction aller. Comment continuer quand on vit des moments de désespoir, quand on vit des pertes, quand des personnes ou des proches sont malades? Et puis peut-être que parfois on est comme ses disciples, nos yeux sont comme empêchés de voir que Jésus, il est là, qu'il place des personnes sur notre route, qu'il place des messages, des paroles d'encouragement. Parfois, nous sommes peut-être comme ses disciples parce que nous savons, oui, que Jésus est ressuscité. On l'a lu dans la Bible, on l'a entendu. Mais il semble que parfois, on a l'impression que, comme ses disciples, on croit encore qu'il est mort. Parce que si vraiment on sait qu'il est ressuscité, qu'il est vivant aujourd'hui, alors on peut lui parler, on peut partager nos cœurs, on peut partager nos soucis, nos questions, peut-être aussi nos échecs, nos fragilités, mais aussi nos moments de joie, de bonheur. Mais c'est vrai que ce n'est pas si simple, puisque Jésus, nous ne le voyons pas. C'est même un défi au quotidien de s'arrêter et de faire route avec lui. Pourtant, lui, il nous écoute. Il est prêt à nous parler, nous enseigner. Il est prêt à nous relever, à nous visiter par sa présence. Alors, j'aimerais ce matin vous proposer une petite pause. Une petite pause pour prendre un petit peu ce chemin d'Emmaüs, faire comme ses disciples, s'arrêter et lui parler. J'aimerais vous encourager à partager avec Jésus ce qui vous préoccupe, vos soucis, vos questions, ce qui est là, vos défis, à lui parler simplement. Je vous propose de nous arrêter ensemble 2 minutes. Pendant ce temps, il y aura un temps de musique qui a été composé par le groupe de louanges, pour prendre ce temps pour méditer. Ça pourrait être comme les prémices de quelque chose que vous pourrez continuer à vivre. Alors aujourd'hui, on n'a pas 2 heures pour s'arrêter, mais on peut prendre déjà 2 minutes. Bonne pause avec Jésus. Thank you. Alors, je ne sais pas comment c'était pour vous. Peut-être si vous aviez les enfants, c'est pas évident de s'arrêter 2 minutes. Mais je trouve que ça fait du bien de réaliser que oui, Jésus, il est là et qu'on peut simplement lui parler. Alors, j'avais envie de vous inviter de continuer, de pourquoi pas prendre ces prochains jours un temps pour aller faire une balade, pour parler avec Jésus. Peut-être vous le faites déjà, ben, je vous encourage à continuer. Peut-être vous le faites dans votre canapé ou quelque part dans votre maison. Eh bien, je crois qu'on ne regrette jamais ces moments-là. C'est des moments tellement précieux, tellement importants, qui nous ressourcent, qui nous édifient, qui nous permettent de continuer avec Jésus. Parce qu'il est vraiment, maintenant, là où vous êtes, il est avec moi, il est avec vous, il est avec chacun d'entre nous, à nos côtés. Le vivant, celui qui s'est présenté à ces deux femmes, à ces femmes au tombeau, celui qui s'est présenté à ces deux disciples d'Emmaüs, celui qui s'est présenté ensuite aux 11 et à leurs compagnons, il est aussi présent à nos côtés pour nous accompagner sur ce chemin de vie. Il est aussi là pour nous accompagner pendant ce temps de confinement. Et je crois qu'il a aussi envie de nous dire, mais que la paix soit avec vous. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.